terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 191e émission, une spéciale La Quadrature du Net qui se réorganise et passe à sa version 2.0. C'est Jérémy Zimmerman qui sera longuement avec nous au téléphone pour en parler. Sans oublier l'indispensable revue de presse de l'april pour la semaine 3 de l'année 2014. Et puis, côté musique, saluons le retour en version bêta, pas tout à fait très bien rempli ni très fonctionnel, mais en tout cas, le retour de la plateforme de téléchargement de musique libre Dogmazic, dont la version 3 est en ligne, ce qui nous a permis de choper des petites patapons ou du Dead Joshua qui nous serviront de petite pause musicale dans cette 191e divergence numérique que vous pouvez écouter sur les ondes de Divergence FM, mais aussi sur les 103.3, 102.0 et 104.1 de Radio Escapade les mardis à 14h et les jeudis à 9h, ainsi que sur les ondes de Radio Larzac 87.8, 98.6 le lundi à 21h, rediffusé le jeudi à 11h. Pour l'heure, c'est la revue de presse de l'april pour la semaine 3 de l'année 2014.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 3, année 2014. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, parle-nous du sommaire.
On a 7 jolis articles. On va vous parler, encore une fois, de la NSA, l'administration italienne, des prévisions pour l'année 2014, Mozilla, des cours universitaires en ligne, chose assez intéressante, Libre en fait qui démarre, et pour finir, un bel article qui va nous parler d'open source, de libre et de monde plus équitable.
Les Inroc, nouvelle révélation sur la NSA, il y aura un avant et un après Snowden, un article de Carole Boinet.
Alors, c'est quoi la nouvelle révélation? On a encore des trucs qui peuvent sortir? Tout n'était pas déjà sur la table.
Alors, c'est la conclusion de l'article, donc on va commencer par la fin, qui dit qu'il n'y aurait qu'à peu près que 5% des infos que Snowden a fait fuiter qui seraient publiques aujourd'hui.
Ah bah déjà, c'est peu.
Voilà, et donc cette nouvelle information, c'est la capacité de la NSA à pirater des ordinateurs non connectés à Internet, en mettant notamment une puce à l'intérieur.
Et ça passe, alors si j'ai bien compris, par le son
ou
par...
Non, c'est des ondes radio.
C'est des ondes radio. Et donc, si je comprends bien, il faut intercepter le matériel avant qu'il arrive chez les gens qui vont l'utiliser. Ou encore, au moment de la construction, ils introduisent des puces un peu comme ils veulent.
Si le constructeur est complice de ça.
Pourquoi pas ?
L'idée, c'est que ça émet des ondes radio comme du Wi-Fi, mais ce n'est pas la même fréquence. Et ça envoie des informations à des gens qui voudraient les écouter. Alors évidemment, c'est a priori pas adapté à de l'espionnage de masse. C'est plutôt pour écouter des gens particuliers. Mais bon, si on se met dans l'idée d'un truc où un constructeur accepte de mettre cette puce à l'intérieur de son matériel, voilà, n'importe qui pourrait être écouté derrière.
Alors, j'en rajouterais, la NSA, elle l'indique bien que ce n'est que défensif. Ils font ça dans un bon esprit pour probablement défendre le territoire américain.
Voilà, donc, uniquement contre les méchants terroristes, bien sûr.
Et les pédonazis. Attention, les pédonazis, c'est très méchant. On a Jérémy Zimmerman qui pourfend un peu ces propos-là et qui fait remarquer que les hackers du logiciel libre avaient raison. On ne peut pas faire confiance à la technologie, sauf quand on peut vraiment mettre les mains dedans. Et le logiciel libre, c'est instamment ce qu'on peut étudier, modifier, redistribuer. Donc on encourage tout le monde à aller dans ce sens-là. Et
voilà,
après,
cet article démontre que ça n'est pas suffisant. Enfin, c'est une brique essentielle, mais qu'il faut également comprendre comment marche le matériel et avoir des spécifications ouvertes, de pouvoir vérifier que son matériel n'a pas lui-même de système de surveillance.
Petit détail, moi j'aime bien le fait que ce soit les Inroc qui fassent ce genre d'article. C'est pas mal parce que c'est un autre public que celui auquel on a accès d'habitude. Donc Snowden, la NSA, par ce biais-là, on montre le logiciel libre, c'est important, c'est vraiment la brique qui va nous permettre de nous défendre.
PC Impact, le logiciel libre désormais prioritaire dans l'administration.
Française ?
Non, italienne. Un article de Nils Agnas.
Je sens qu'on a raté quelque chose dans notre bon petit coin de France.
On y était presque. Bon, on sait que ça fait un bout de temps que l'administration italienne est très en faveur du logiciel libre et a cette idée de lui donner la priorité. Et là, voilà, c'est fait, c'est mis en place.
Donc ça va toucher essentiellement quoi ? Les achats et les ventes publiques, les marchés publics, où là, ils vont probablement scruter de manière bien plus forte qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, les entreprises qui proposent des solutions logicielles. Et en gros, si jamais il existe quelque chose d'équivalent en logiciel libre, ou simplement il y a du logiciel libre qui fournit ce dont ils ont besoin, il faudra le prendre. Et ensuite seulement, ils n'enlèvent pas cette possibilité-là, ils peuvent quand même prendre du propriétaire dans certains cas.
Voilà, après ça, ça serait intéressant de voir comment ce truc-là est mis en œuvre, puisqu'on peut imaginer que prouver qu'il n'y a pas d'équivalent, c'est quoi un équivalent ? Si on a des demandes fonctionnelles extrêmement précises, on va pouvoir dire « Ah oui, mais ça ne fait pas ce petit machin dont j'ai vraiment absolument besoin ». Tout ça, on peut l'argumenter soit avec de la bonne foi, soit avec de la mauvaise foi. Et donc, bah, le résultat sera intéressant à voir, parce que derrière, il y a quand même toute cette question de gestion du changement qui n'est pas évidente.
Oui, puis on rappellera, hein, tout ça, ça concerne des millions et des millions d'euros. À l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe, c'est même des milliards, largement. Et puis, tout simplement, c'est ne pas se mettre sous la coupe réglée d'un monopole, d'une multinationale, souvent basée aux États-Unis, qui nous pompe du fric en passant par des paradis fiscaux, c'est insupportable.
ZDNet, 10 prévisions pour l'open source en 2014, un article de Jack Wallen.
Alors vous remarquerez, on se retient, dans le logiciel libre on est propre, on évite la rétrospective de l'année qui vient de passer, on évite les projections sur l'année future, on l'évite un peu, parce que quand même, de temps en temps, il y a des choses intéressantes.
Oui, alors moi j'adore ce genre d'article, enfin il faudrait qu'on arrive à se le mettre sous le coude pour en reparler dans un an, et c'est toujours rigolo de voir des prévisions, au moins c'est des gens qui s'engagent, ils mettent ça par écrit, et bon, en tout cas c'est toujours une bonne matière à discussion.
C'est présenté en plus comme un avis d'expert, hein, donc le gars il se pose, il s'impose.
Alors on va pas toutes les citer parce que ça en fait un petit paquet, dans celle que, bah, qu'on retient la première, donc les données d'entreprise seront dominées par l'open source, alors bon il parle d'open source, hein, pas de libre. Donc ça, c'est bon, à mon avis, ça n'engage pas trop parce que le mouvement est déjà bien, bien engagé.
Moi, je préfère le deuxième, c'est Valve, et en gros, ça concerne les jeux.
Oui, Valve, donc, est une entreprise qui fait à la base du propriétaire et qui a senti que son avenir était assez sombre avec l'arrivée de Windows 8, puisque ce sont eux qui font Steam, c'est une sorte de plateforme d'installation, de maintenance et de vente de jeux vidéo qui marchait sous Windows, et bon, c'est quelque chose que Microsoft sait très bien faire avec les Xbox, et ils ont mis leur propre système dans Windows 8, et donc Valve a bien compris qu'ils étaient en trop dans cette affaire-là. Et donc, bah, ils ont sorti SteamOS, qui est une distribution Linux, qui n'est pas GNU, puisque derrière, il y a plein de DRM et plein de systèmes bien verrouillés. Mais l'idée, c'est de s'affranchir de tout ça. Ils ont des studios qui les suivent, et ils ont une surface nécessaire pour mettre la pression aux constructeurs pour faire enfin des pilotes adaptés à Linux. Le problème, c'est que ce ne seront probablement pas des pilotes libres, ça, tout ça, on va rester dans le monde du propriétaire, donc on a une propriétarisation du truc.
Il faut voir, hein, y a des attentes là-dessus, on suppose que les spécifications seront bien plus ouvertes, notamment sur les cartes graphiques qui sont un des points qui peut être bloquant pour les performances, donc il y a des gens qui supposent que ça peut aller dans le bon sens, et puis Stallman, même si effectivement Valve, c'est pas que des gentils, font vraiment beaucoup de privateurs, mais Stallman apprécie le fait que bah, il se déplace vers une plateforme libre, donc c'est un mieux.
Alors, autre engagement, alors là, qui pour le coup est vraiment important, c'est le bureau Linux obtiendra une part de marché à deux chiffres. Alors ça, faut oser y aller quand même.
Oui, ça veut quand même dire donc du 10% par rapport à ce qui existe.
Aujourd'hui, on est à 1%. Hein.
Alors lui, il revendique qu'aujourd'hui, on a 5%. C'est bien
sur
plus.
Sur du bureau Linux.
Sur du bureau. Maintenant, va savoir comment il se bat, sur quoi il avance. Et lui, ce qu'il revendique et ce qu'il indique, c'est qu'avec la fin de Windows XP, la disparition prévue de Windows XP qui devrait arriver, alors pas là maintenant, parce que finalement, Microsoft a rajouté une année, il me
Encore
semble. Et oui, hein, quand ils se rendent compte que tout le monde va se retrouver le nez dans l'eau, ils rajoutent un petit peu. Mais ça n'empêche, XP arrivant à la fin, il y a plein de gens qui pourraient prendre cette occasion-là pour changer, pour migrer, pour former les utilisateurs. Le changement de Windows XP à Windows 8 vaut largement le changement de Windows XP à une Ubuntu.
Et il parle du monde professionnel, essentiellement. En tout cas, ce serait une évolution énorme, puisque ça fait quand même très très longtemps qu'une distribution GNU Linux ne décolle pas en termes d'usage, enfin de bureau, et au grand désespoir de tout le monde. Et donc, s'il ne se trompe pas, ce serait vraiment une très bonne nouvelle. Donc, on se donne rendez-vous dans un an, on verra ce que ça donne. Numérama, Mozilla défend l'intérêt de l'open source contre la surveillance, un article de Julien L.
Ça poursuit un peu le propos de tout à l'heure sur la NSA, mais là, ça vient d'un acteur qui produit du code, qui produit un gros logiciel indispensable dans le monde Internet, c'est Firefox. Donc vraiment, c'est des gens qui se posent et qui sont importants.
Et Firefox OS, qui pour l'instant voilà, est assez anecdotique en termes de part de marché.
Bah, il démarre, hein, c'est voilà, pour donc les téléphones portables, voilà. Je rappelle.
Mais dont on espère que ça va prendre de l'ampleur. On ne peut qu'être d'accord avec ce qu'ils disent, et finalement, c'est l'illustration de l'idée qu'on avance depuis toujours, hein, qui est de dire qu'il faut être maître de son informatique. Et donc, être maître de son informatique, c'est savoir comment ça marche, vérifier qu'il n'y a pas de backdoor, de trucs cachés qui permettent à des personnes de faire un peu ce qu'ils veulent avec votre informatique. Et ils expliquent que, bah voilà, avec le système du code ouvert, c'est quand même vachement plus compliqué, même si la NSA essaie de le faire. On l'a vu avec l'histoire de Linus Torvalds. Même si la NSA essaye, c'est très compliqué parce que ça laisse des traces et tout le monde peut aller vérifier comment c'est fait dedans.
Exactement. Il faudrait saboter beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec une application propriétaire qui est faite de manière un peu anonyme, dans un coin, une boîte noire. Là, on est visible de tous. Donc, si vous allez saboter quelque chose, il faut vous assurer que personne ne va aller vérifier. Et le principe du logiciel libre, c'est que tout le monde peut aller vérifier. Donc, Mozilla, bah, ils sont à la pointe sur ce genre de sujet-là. Et ils le rappellent, ça fait du bien.
PC Impact, cours universitaire en ligne, l'exécutif donne un coup d'accélérateur, un article de Xavier Bern.
Super nouvelle, on fait un peu de l'internet, on saupoudre avec des cours en ligne, donc des formations, voilà, des cours universitaires.
C'est des choses qui se font dans les universités américaines depuis quelques années maintenant.
Mais justement, nous on rattrape, on se met à la pointe.
Voilà, on se met à la pointe, ça s'appelle des MOOC, donc M-O-O-C pour Massive Online. Quoi donc ?
Pour Massive Open Online Courses, donc c'est pour faire ressembler un petit peu tout ça avec des jeux online. Et moi, ce que j'adore, c'est plutôt le site France Université Numérique qui a trouvé un acronyme qui est vraiment sympa. C'est le site
FUN.
Voilà, ça a fait plaisir. Donc pourquoi pas ? Après tout, s'ils arrivent à mettre un peu en avant tout ça, on ne peut mieux. Alors, dans les propositions, ils vont mettre de l'argent sur la table. Je crois qu'il est question d'une vingtaine de millions d'euros.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal. Et en gros, ils vont construire des studios dans les universités pour pouvoir enregistrer les cours, les déployer sur Dailymotion pour que les gens puissent y accéder, et d'autres formats, j'imagine bien.
Bon, ça dit que c'est open, ça veut dire que c'est libre ?
Pas du tout. Et c'est bien ça le problème, c'est que les contenus qui vont être diffusés, ben, ils n'ont pas de licence qui leur ont été rattachées. Donc vraisemblablement, c'est du privateur, puisque c'est le cas par défaut. Et on le regrette bien, surtout alors qu'il y a eu des choses intéressantes qui sont passées il n'y a pas longtemps.
Oui, le journaliste le fait judicieusement remarquer. Il y a donc la priorité au logiciel libre dans l'enseignement supérieur qui a été votée en France. Et manifestement, cette décision n'intervient absolument pas dans ce projet. Info DSI, Libre en Fête 2014, découvrir le logiciel libre à l'arrivée du printemps, un article de la rédaction.
Donc, quelque chose d'intéressant qu'on appréciait à l'April, puisqu'on est à l'initiative
de Libre en Fête. Et oui, donc c'est une reprise de cette nouvelle hein, par Info DSI. Il n'y a pas d'analyse particulière, mais il y a une reprise de cette info, et ce qui nous fait grandement plaisir, et qui explique ce que c'est que Libre en Fête. Et c'est quoi Libre en Fête ?
Bah, Libre en Fête, c'est le printemps, c'est les fleurs, on est content de sortir, d'aller montrer aux autres ce qu'on sait faire.
Alors plus concrètement, l'idée c'est d'organiser des événements, donc on se donne quelques semaines pour organiser des événements autour du logiciel libre de l'informatique libre pour faire découvrir des tas de choses comme on peut, soit pour aller voir des choses que font certaines personnes, soit pour montrer ce qu'on sait faire. Ça se fait pas mal en coopération avec les espaces publics numériques, mais pas seulement, avec tous les groupes d'utilisateurs de logiciels libres locaux, etc. Et on invite tout le monde à monter des choses dans leur coin pour partager.
Donc vous pouvez aller jeter un œil sur l'agenda du libre, faites une petite recherche, vous devrez le trouver assez rapidement. Les différents événements sont proposés, sont présentés dessus, ça vous permettra d'aller voir ce qu'il y a dans votre région ou ailleurs si vous vous déplacez. Donc c'est assez fun, c'est bon vivant, c'est convivial.
L'Express.fr, l'open source, clé d'un monde plus équitable. Point d'interrogation, un article d'Anne-Sophie Novel.
Donc c'est un bon article qui nous parle d'utopie, d'évolution du monde, ça va dans le bon sens. On sort de notre bonne vieille société de consommation et on arrive dans une société contributive.
Et oui, et elle cite toute une série de projets qui sont vraiment dans le domaine du matériel, hein, sur des trucs comme construire une voiture, construire des outils agricoles, cet exemple ressort très souvent, ou des bateaux pour dépolluer la mer quand il y a des marées noires ou des choses comme ça. Et l'idée c'est d'utiliser ces principes du libre dans la façon de travailler, dans la façon de partager les connaissances qui vont être générées à cette occasion. Et donc voilà, c'est toute une série d'exemples assez intéressants.
Elle parle de crowdsourcing, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a besoin d'argent à un moment donné.
Crowdfunding.
Crowdfunding, effectivement, qui se rapproche nécessairement. Nous représente le matériel agricole que j'adore. Il y a des super maquettes, il y a des beaux dessins de tracteurs faits par les gars eux-mêmes à pas cher et super solides. Elle présente la philosophie de Stigler, Bernard Stigler, pas un gars tout jeune, mais qui a des bonnes idées, justement. Mmh. Il parle de cette économie de la contribution. Et j'adore le dernier exemple qui est présenté sur cet article. C'est l'exemple de la mesure de la radioactivité au Japon, un endroit qui peut peut-être vous rappeler des choses et qui est assez intéressant parce que là-bas, d'habitude, on mesure bizarrement, je dirais, cette radioactivité. Et là, bah, ils sont basés sur les citoyens.
Mais je pense que les citoyens se sont basés sur eux-mêmes et ont pris l'initiative de faire ces mesures de leur propre chef. Mais c'est de Tokyo jusqu'à Los Angeles, donc ça sort du Japon. Et en fait, bah, des volontaires vont mesurer la radioactivité à 1 mètre du sol, c'est-à-dire là où on vit, alors que non, semble-t-il, les normes, c'est de les recenser à 10 mètres du sol, où, bon, sauf les plus grands d'entre nous, personne ne se retrouve jamais. Et il y a jusqu'à 10 millions de mesures, donc c'est vraiment important, ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup plus de mesures que ce que peuvent faire les trucs officiels. Alors évidemment, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas garantir la fiabilité des mesures, parce que c'est fait par tout à chacun. Mais bon, peut-on avoir une totale confiance dans les trucs officiels, vu les enjeux ? Je trouve que c'est plutôt pas mal que ces mesures existent.
Merci Luc.
Merci Manu.
Je te dis à la semaine prochaine.
Oui, alors on va faire une petite mention spécifique pour une nouvelle radio qui nous diffuse, c'est Radio au fil de l'eau. On sait que Gilles a cité les autres la semaine dernière, hein. On a Radio Larzac, Radio Ici et Maintenant et Radio Escapade. Et donc merci à vous tous de nous diffuser. On se retrouve la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Divergence numérique 191e émission. On remercie nos joyeux revues de presseurs de l'April. Un petit peu, une petite pause musicale avant de retrouver notre entretien avec Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net. Une petite pause musicale piochée sur l'archive dogmasic.net qui fait son retour lentement mais sûrement. Un titre des Tites Patapons, extrait de l'album Errons, Errons, une errance qui vous emmène sur le fil.
Je me suis levé ce matin, une autre ville, une autre vie. Un écureuil sur le terrain, et sur la piste, le clown triste. Tel est le quotidien au cirque d'un artiste. Et ce soir on revient jouer les équilibristes. Tous les jours on replante le décor. Les clowns se maquillent encore pour quelques heures donner du bonheur à un public d'enfants tristes. Un projo sur les jongleurs, les autres éclairent la piste. Tel est le quotidien au cirque d'un artiste.
Le titre, c'était Sur le fil. Le groupe s'appelle Tites Patapons. On les retrouve sur dogmasic.net. Extrait de l'album Errons, Errons, sous licence Creative Commons by SA. À présent, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la quadrature du net 2.0, sans jamais avoir osé vous le demander, avec Jérémy Zimmermann.
Nous sommes en ligne avec Jérémy Zimmermann de la quadrature du net. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Bah, tout d'abord, une excellente année 2014 de la part de Divergence Numérique pour la quadrature du net qui défend nos, vos, leurs libertés sur Internet. Et puis j'imagine avec, peut-être avant de parler de l'actualité 2014, qui sera forcément concomitante avec celle de 2013, petit bilan 2013, vite fait.
Oui, on a passé une bonne partie de l'année 2013 à investir de nouveaux terrains, de nouveaux dossiers, tant au niveau européen qu'au niveau français. Et surtout, c'est surtout la cuisine interne, si j'ose dire. Pour nous, ça a été une année clé pour structurer la quadrature du net, pour passer d'une espèce de non-structure homme-orchestre où j'étais un petit peu au four et au moulin et où c'était très difficile de trouver des gens pour travailler avec moi qui étaient un peu obligés de me suivre à toute vitesse. On a transformé ça d'une non-structure homme-orchestre en une vraie structure qui est, on l'espère, durable, pérenne et que l'on va pouvoir augmenter en taille au cours des mois et des années à venir.
Oui, alors ça, c'est la quadrature 2.0, celle qui, finalement, va te permettre de travailler moins en tant que celui qui est tout partout à la fois. Plus d'efficacité dans le travail, moins d'asservissement.
Mais on va surtout arriver, à distribuer les rôles. On a au terme d'un processus un petit peu introspectif, à la fin de l'année 2012, on a identifié clairement quelles étaient les zones principales d'activité de la quadrature, à savoir d'un côté l'analyse et la veille politique et juridique, de l'autre la campagne à proprement parler, et la mobilisation, et de l'autre encore le développement d'outils pour la participation citoyenne. Donc c'est selon ces trois lignes que nous avons structuré la quadrature, d'abord en embauchant Miriam Martino, qui est maintenant notre coordinatrice de la veille et de l'analyse politique et juridique, de l'autre en embauchant Thomas Bouchet, qui est notre coordinateur du développement des outils pour la participation citoyenne. On a également embauché Marie Valrafen, qui s'occupe de l'administration et d'une bonne partie de la coordination et de la logistique des opérations. Et moi, j'étais naturellement en charge de la coordination de la campagne. Là, j'ai décidé, à la fois pour laisser en quelque sorte place aux jeunes et pour pouvoir, à titre personnel, me concentrer sur les aspects les plus stratégiques, de laisser mon poste. Et donc, c'est prochainement un coordinateur de la campagne que l'on va recruter et qui travaillera avec Johan Spicher, qui est déjà chez nous à s'occuper de la campagne, et nos stagiaires hyper sympas et talentueux qui nous ont récemment rejoints. Et donc tout ce petit monde va faire tourner la boutique d'une façon, j'en suis sûr, durable et forcément intéressante. Tandis que le conseil d'administration, on l'appelle le conseil d'orientation stratégique, même si ça fait un petit peu pompeux, a été élargi depuis les membres initiaux fondateurs. On a élargi à Félix Tréguer, que tu connais bien, qui a travaillé avec nous pendant 3 ans, à Benjamin Bayard, à Lionel Morel, Calimac, qui écrit beaucoup sur les questions de droit d'auteur. On va bientôt l'élargir aussi à... C'est en cours de finalisation à Laurent Chemla, un autre dinosaure de l'Internet libre. Et donc, tous ensemble, depuis ce conseil d'orientation, on va pouvoir déterminer les lignes stratégiques, orienter l'action de l'association et, avec l'aide de l'équipe opérationnelle, prendre la parole encore plus efficacement dans les médias. Et donc voilà, c'est là-dessus que je vais me concentrer. On va faire ce pari un petit peu audacieux de décentraliser la prise de parole dans les médias. D'une part parce que l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'ai envie que les gens invitent la quadrature du net, invitent la défense des libertés sur Internet et pas Jérémy Zimmermann, parce qu'ils savent que je fais le clown à la télé et que je rentre dans l'art de Pascal Nègre ou des députés. Aussi parce qu'on a maintenant un tel nombre de dossiers qu'il est impossible pour une personne de tous les maîtriser sur le bout des doigts. Donc quand il va s'agir de parler de droit d'auteur, On va plutôt aiguiller vers Philippe Aigrin ou Lionel Morel, quand il va s'agir de liberté d'expression sur Internet, plutôt vers Félix Tréguer, neutralité peut-être Benjamin Bayard ou Félix Tréguer, etc. Donc on fait ce pari, c'est un peu audacieux, parce qu'on sait qu'en général, les médias aiment bien voir une tête, avoir un interlocuteur de référence, mais on pense qu'on va y arriver.
Dans un premier temps, je pense que ça aura plutôt servi le propos que d'avoir frimousse qui apparaissent régulièrement dans les médias, mais peut-être que c'est justement le moment de passer à une certaine forme de maturité en imposant justement à ces médias le fait que la quadrature soit représentée par différents cerveaux de façon plus pragmatique, on va dire, et de façon moins publicitaire par tout le temps la même figure, même si ça aura, à mon avis, été relativement utile à un moment donné pour que les gens identifient un petit peu le propos.
Oui, on est. C'est un pari. C'est un pari que l'on fait, mais je suis confiant qu'on va y arriver. Avec des cerveaux, comme tu dis, comme celui de Lionel Morel ou de Félix Tréguer, et vu le nombre de dossiers, c'est surtout ça qui nous arrive. Je pense que ça ne peut que marcher. Là, on s'aperçoit que les sujets qui ont trait aux libertés fondamentales sur Internet se multiplient avec la surveillance de masse. En France, la loi de programmation militaire, le projet de loi à venir de chez Christiane Taubira sur liberté et Internet, dont Manuel Valls a déjà dit qu'il s'agirait d'encadrer la liberté d'expression sur Internet, ce qui fait frissonner, avec le prochain projet à sortir du ministère de la Culture qui implémentera les conclusions du rapport Lescure. Et ça n'est que parler de la France. On pourrait aussi parler à Bruxelles du dossier en cours, l'examen du paquet télécom, dans lequel la question de la neutralité du net va être évidemment centrale. Ou encore de la directive protection des données, qui pour le moment est un petit peu en stand-by, mais qui va revenir dès la suite des élections européennes, ou encore évidemment les négociations de l'accord transatlantique, qui risque d'être un énorme morceau également. Et là, c'est juste les dossiers qui me viennent, parce qu'ils sont sur ma table en ce moment, mais tu vois que c'est près d'une dizaine de dossiers en cours que l'on va avoir à traiter, donc évidemment, paralléliser les actions, décentraliser le mode opératoire, la prise de parole et l'énergie, c'est la quadrature 2.0 que l'on a mis en place au cours de cette année 2013.
Et on espère bien que ça portera ses fruits, d'autant que, comme tu le disais, les dossiers s'accumulent. Alors c'est justement par là qu'on va en passer maintenant. On peut lire sur le site de la quadrature.net, qu'il reste, au moment où on enregistre cette interview, ça fera deux jours de moins lors de la diffusion, il reste 12 jours pour répondre à la consultation de la Commission européenne sur le droit d'auteur. Les conseils de la quadrature sont en ligne pour préparer vos réponses. Un des dossiers qui est dans le feu de l'actualité.
Et alors là, c'est un dossier très important pour nous, parce que déjà, on l'a vu, le droit d'auteur est de plus en plus utilisé comme un instrument de contrôle de l'usage de la technologie, comme un instrument de censure, comme un instrument anticoncurrentiel, de la même façon que l'on perçoit de plus en plus combien le partage et le remix sont aujourd'hui au cœur de nos pratiques culturelles, et nous affirmons qu'ils doivent être défendus véritablement comme nos droits culturels. C'est d'autant plus intéressant que là, c'est un bras de fer qui s'est opéré au niveau européen pendant ces 5 ans. Certains épisodes étaient particulièrement visibles, mais d'autres beaucoup moins. On se rappellera peut-être que Michel Barnier, donc le commissaire européen de la France, commissaire européen au marché intérieur, en charge du droit d'auteur, puisque chacun sait que le droit d'auteur est une question de marché, dès qu'il est arrivé à son poste il y a maintenant 5 ans, a dit « Ah, il va falloir plus de répression, il va falloir faire coopérer les entreprises d'Internet », et c'était parti. Donc des consultations ont été lancées à l'époque, et là on avait campagné très fort, en appelant tous les jours les citoyens à répondre à cette consultation, et pour la première fois dans l'histoire de la Commission européenne, eh bien, les citoyens étaient le premier corps de répondants avec des inquiétudes sur justement ces polices privées du copyright, sur la liberté sur Internet, etc. Et donc, c'est une action qu'on a menée qui a eu pour effet de mettre des bâtons dans les roues du programme tout répressif de Michel Barnier. Ensuite, c'est la bataille de l'ACTA, dont tout le monde se souvient, qui a éclaté, donc l'accord commercial anti-contrefaçon. On a pendant 4 ans œuvré pour le dégommer, alors que c'était une bataille impossible à gagner. On l'a gagné d'une victoire écrasante, 478 voix contre 39. Et là aussi, notre message à la fin de la bataille de l'ACTA, c'était contre ACTA. Et au-delà, il va falloir réformer le droit d'auteur. Le réformer, évidemment, pour prendre en compte nos droits culturels plutôt que sans cesse les combattre. Eh bien, ça aussi avait eu pour effet de mettre des bâtons dans les roues de Michel Barnier, qui attendait qu'une chose, c'est qu'ACTA soit voté pour le transposer dans un projet répressif. Donc, en fait, au cours de ces 5 ans, nous n'avons eu de cesse que de repousser, de retarder ce programme répressif. Et depuis que nous avons gagné avec l'ACTA, on a rendu les choses politiquement beaucoup plus difficiles pour la Commission européenne d'avancer avec des nouvelles mesures répressives. Et donc, la Commission joue ce jeu d'usure qui est de reconsulter, de consulter, de consulter encore et toujours. En 3 ans, c'est la 3e consultation sur le droit d'auteur. Et on a l'impression qu'ils font ça pour nous essouffler, pour s'assurer qu'au bout d'un moment, les citoyens vont lâcher l'affaire et l'industrie va répondre. Et donc, les réponses vont être celles qu'ils attendent. Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. La consultation, on a l'impression, a été faite pour que l'on ne puisse pas y répondre. C'est un document de 30 pages avec 86 questions qui sont toutes anglais pour dire « Vous, en tant que professionnel, rencontrez-vous tel ou tel problème ?» Eh bien, nous, ce que l'on dit, c'est que la Commission a obligation de considérer toutes les réponses. Et donc, on invite les citoyens à répondre sur papier libre, si j'ose dire, sur format libre, sans se sentir contraints par ces 86 questions, et juste écrire de votre plus belle plume, de votre plus beau français, parce que vous avez le droit de répondre en français, que vous voulez que vos droits culturels soient reconnus, que le partage entre individus sans but de profit est légitime, que les gens qui partagent dépensent pour la culture, que le remix est aujourd'hui une forme d'expression, et que le rôle des institutions européennes est de protéger la liberté d'expression, donc de légaliser le remix, comme de légaliser le partage, etc. Et donc au plus il y aura de réponses des citoyens, au plus il deviendra impossible à la Commission de pousser un agenda répressif, et au plus il sera évident que l'inévitable révision du cadre européen en matière de droit d'auteur pourra éventuellement être poussée en notre faveur, pour une fois en la faveur du public et non en la faveur des industries. Et donc il est très important que chacun prenne 5 minutes, 10 minutes, une heure pour rédiger une réponse et l'envoyer à la Commission. En regardant le site de la Quadrature du Net, vous trouverez des instructions à cet effet.
Voilà, la période de consultation a démarré le 5 décembre et se poursuit jusqu'au 5 février. Il suffit de remplir un document qu'on peut télécharger au format Word, ODF ou PDF. On retrouve toutes les adresses facilement sur laquadrature.net. Le droit d'auteur qui a souvent été défendu par la Quadrature et les libristes en général, notamment sur les histoires de brevets logiciels où on considère que le droit d'auteur est plus adéquat, tout comme le législateur l'avait pensé dans un premier temps, pour protéger un logiciel qui peut être imprimé sur du papier dans son code de programmation, que le brevet. Donc le droit d'auteur qui n'est pas comme... c'est une notion assez vague, hein, qui touche à la fois finalement, là on l'a vu pour le logiciel, quelque chose qui peut être industriel, tout comme c'est souvent le cas dans l'esprit des gens, hein, plutôt des œuvres culturelles. Le droit d'auteur qui avait été inventé en quelque sorte, en tout cas co-inventé par les auteurs eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'entre les sociétés civiles de gestion de droit qui font l'objet de critiques plutôt justifiées de la part des associations de consommateurs ou autres, et puis cette notion fondamentale du droit d'auteur, il y a tellement de choses qui y sont rattachées que je ne saurais trop conseiller aux gens de s'informer justement, de s'acculturer là-dessus, histoire de prendre les bonnes décisions, parce que c'est un domaine tellement large qu'il peut paraître flou pour celui qui se dit « ouais, mais de quoi on parle ?»
Alors justement, sur notre wiki, nous avons préparé en fait des aides à la réponse, où comme je le disais, chacun est invité à répondre dans son propre format, dans ses propres mots. Et sur notre wiki, on a des sections, voilà, si vous êtes enseignant, si vous êtes chercheur, si vous êtes auteur, si vous êtes bibliothécaire, avec à chaque fois des pistes d'orientation et des références sur comment rédiger votre propre réponse. On se rend souvent compte après coup à quel point il est possible d'avoir un impact en tant que simple citoyen, même si l'on est désabusé, même si l'on se sent déconnecté des institutions européennes. Lorsque l'on avait bousculé l'une des précédentes consultations que j'évoquais sur l'agenda répressif sur IPRED, au bout du compte, je crois que c'était seulement 300 réponses de citoyens qui avaient enterré les réponses de l'industrie, qui n'étaient que 120 ou 150 derrière. Mm-hmm. Donc on se sent souvent écrasé sous le poids des lobbies, sous le poids de l'industrie. Mais en réalité, nous tous, citoyens, on peut, si l'on s'organise et si l'on en prend le temps, avoir beaucoup plus de poids qu'eux.
Ça s'était vu par rapport à... c'était en 2005, notamment par rapport au brevet logiciel. Ça s'est vu aussi avec, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le cas de l'ACTA. Mais l'ACTA revient sous l'acronyme d'un traité nord-atlantique, le TAFTA, qui n'est pas doux comme le tissu auquel il fait penser, mais plutôt dur, puisqu'on y retrouve des copier-coller de l'ACTA à l'intérieur.
Pas encore. Non, alors en fait, l'accord transatlantique, TAFTA, aussi appelé TTIP, pour le rendre plus gentil, parce que TTIP, ça veut dire le partenariat transatlantique, alors qu'un partenariat, c'est forcément quelque chose de positif. Cet accord est en cours de négociation, il vient de commencer. Apparemment, il n'y aurait même pas encore de texte qui ferait l'objet d'un accord entre les États-Unis et l'Union européenne. On en est, je crois, au quatrième round de négociation, donc c'est vraiment le tout début. Mais c'est seulement pour le moment dans l'intention des négociateurs que l'on voit de gros dangers. On en est là vraiment au stade zéro de la mobilisation où en gros on attend que Wikileaks publie la première version de travail du texte. Mais ce que l'on sait, c'est que l'accord transatlantique va toucher, donc comme tu le rappelles, comme l'ACTA, aux questions des droits d'auteur, potentiellement la question des brevets également, mais aussi à la question des données personnelles et de la protection de la vie privée. Dans les déclarations d'intention des négociateurs, ils en étaient à parler de flux de données. Quand de doux termes ces choses-là sont dites, on n'avait même plus à parler de protection de la vie privée, mais de flux de données, comme si ça s'achetait comme une marchandise, comme des barils de lessive. Mais il sera aussi question de sécurité alimentaire. Les États-Unis veulent faire en sorte que l'Union européenne abaisse ses normes, notamment sur la viande aux hormones, sur la viande clonée, sur les OGM. Il y a aussi des dispositions qui toucheraient aux normes environnementales, où là aussi, certains groupes industriels aimeraient bien que l'Europe soit encore moins protectrice de l'environnement pour permettre de faire du business à tout craint. Ou encore, et là c'est un gros sujet de discorde aujourd'hui qui peut-être à lui seul pourrait faire capoter les négociations, c'est les, ça s'appelle Investor State Dispute Settlement, c'est l'histoire de créer des tribunaux arbitraux, donc pas vraiment des tribunaux avec des vrais juges judiciaires, mais au contraire des espèces de tribunaux administratifs qui seraient pilotés par l'industrie elle-même, qui décideraient que les pays devraient payer des compensations aux industries qui s'estimeraient lésées par trop de régulations. Et on a vu le cas récemment avec le Québec qui a instauré un moratoire sur le gaz de schiste. Et ben boum, l'industrie du gaz de schiste attaque le Québec devant une telle institution et obtient des milliards de réparations. Une telle décision au Danemark, je crois, a accordé à l'industrie nucléaire des milliards à cause d'une régulation qui imposait les énergies douces et des choses comme cela. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et l'ensemble de ces négociations, à l'image de l'ACTA, mais en allant beaucoup plus loin, représenterait une forme de prise de contrôle du processus législatif dans une sorte de processus paralégislatif par des groupes industriels au travers des exécutifs. Et c'est vraiment un mécanisme profondément antidémocratique. Et comme pour l'ACTA, ça n'est pas tant le fond, le contenu de l'accord lui-même, même si le contenu risque d'être complètement effrayant. Mais le contenu, on ne l'a pas encore entre les mains aujourd'hui, tant que la forme de vraiment le processus de ces gouvernements qui cherchent à contourner la démocratie, qui, je l'espère, va susciter une forte mobilisation dans les mois et dans les années qui viennent. Mais alors là, c'est un dossier à long terme, hein, comme je le disais, on en est au quatrième round de négociation, donc c'est sans doute pas avant au mieux 2015, sinon 2016, que le texte arrivera à échéance, mais c'est évidemment d'ici là qu'il va falloir en parler et mobiliser.
Bizarrement, c'est les projets dont on a l'impression que finalement, c'est pas tant les choses qu'ils mettent en avant, plutôt que les conséquences qui en découleraient, et on a un peu l'impression que le vrai objectif, c'est ces fameuses conséquences, c'est-à-dire comment empêcher un État de légiférer pour le bien commun.
Exactement. Et là, c'est vraiment... on a l'impression qu'avec celui-ci, ils sont en train d'aller tellement loin que ça risque véritablement de leur péter à la figure. On voit déjà le début d'une mobilisation très forte en France comme en Europe, où les associations environnementales, les associations anticorruption, les associations pour la sécurité alimentaire, des associations traditionnelles comme ATTAC, etc., sont déjà en train de monter au créneau. Et l'on se dit que ça ne fera qu'augmenter au fil du temps. Si j'étais parmi les négociateurs aujourd'hui, je pense que je m'endormirais assez mal le soir.
C'est dans la troisième semaine de février 2014 qu'aura lieu une rencontre entre Karel de Gucht et le négociateur en chef US. Et puis du 10 au 14 mars, ce sera le quatrième cycle de négociations à Bruxelles. Donc s'il y en a des gens qui veulent se rendre à Bruxelles pour tendre des banderoles ou se joindre à la lutte, peut-être qu'ils pourront toujours.
Alors, un autre dossier en cours, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler,
Internet.
Mais c'est le paquet télécom à Bruxelles,
oui,
et la neutralité du net.
Voilà, alors j'allais parler justement de l'initiative SaveTheInternet.eu qui est concomitante à ce sujet-là, tout à fait.
Alors c'est Nelly Kroes, donc la commissaire européenne néerlandaise en charge de, ça s'appelle le Digital Agenda, donc en charge d'Internet, qui nous a fait lanterner pendant presque 5 ans maintenant, lors de son discours de confirmation devant le Parlement européen, devant la commission industrie du Parlement européen il y a 5 ans maintenant. Elle s'était engagée à tout prix à protéger la neutralité du net, indispensable pour le business, pour les libertés, etc. Et depuis, rien. Depuis, il fallait faire une enquête, puis nommer une commission, puis demander à cette commission de faire une enquête, etc. Et de proche en proche, tous les 6 mois, tous les ans, on nous annonçait qu'il allait falloir encore un petit peu plus d'informations avant de faire quelque chose. Pendant le même temps, c'est une commission d'enquête parlementaire en France, menée par Laure de la Raudière et Corinne Hérel, qui, en début 2012, est arrivé aux conclusions au terme d'une étude de 80 pages qu'il fallait impérativement protéger la neutralité du net dans la loi. Donc je rappelle pour nos auditeurs, la neutralité du net, c'est l'universalité d'Internet. C'est le fait qu'un opérateur, qu'un acteur en chemin entre vous et Internet, il ne va pas décider de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accéder ou publier comme contenu, comme service et comme application. C'est garantir qu'Internet sera le même pour tout le monde et que des contraintes économiques ne vont pas venir influer sur cette capacité universelle d'accès et de participation en réseau que l'on appelle Internet. Et donc, à la toute fin de la législature, il y a quelques mois seulement, Nelly Kroes met sur la table une proposition législative en dernière minute et en urgence, en disant « ça y est, on va protéger la neutralité du net ». Et nous, on regarde le texte et on voit que, d'un côté, l'article 23.5, on a bien l'impression que ça protège la neutralité du net. On dit on empêche aux opérateurs de bloquer ou de restreindre les flux de données. Et on se dit, bravo, chapeau, Nelly Kroes. Et on regarde un peu plus loin, un petit peu plus haut, 3 paragraphes plus haut, article 23.2, et là, on voit l'inverse. On voit un truc écrit dans une espèce de jargon, évidemment, technocratique, et qui dit que les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs de services peuvent s'entendre entre eux pour prioriser certains services et en faire des services spécialisés sur Internet. Alors c'est un petit peu de jargon, mais c'est tout simplement dire qu'on est libre de prioriser certains services. Et donc prioriser certains services sur Internet, ça veut dire évidemment déprioriser tous les autres. Donc quand d'un côté on va dire on ne restreint pas, mais de l'autre on dit on priorise, c'est évidemment se moquer du monde. Et on le voit aujourd'hui, il y a des offres qui commencent à fleurir sur le marché, des offres de SFR là, qui s'appellent RED, qui disent « Ah, vous avez le droit à 5 gigaoctets de données par mois, mais YouTube, c'est illimité. » Comme quoi, un gigaoctet de YouTube, ce n'est pas la même chose qu'un gigaoctet d'Internet. Eh bien, c'est précisément ce genre de situation à la fois anticoncurrentielle, anti-innovation, mais aussi anti-liberté d'expression. Pourquoi vous ne pourriez pas utiliser des gigaoctets pour communiquer via un logiciel de voix sur IP ou pour du chat ou pour envoyer tout simplement vos propres vidéos ailleurs que YouTube, par opposition aux gigas de YouTube qui eux sont gratuits. Donc c'est précisément là-dessus qu'il s'agit d'intervenir. Le vote crucial, on sera en commission industrie du Parlement européen, je crois le 27 février. Mais d'ici là, c'est un certain nombre de votes pour opinion d'un certain nombre de commissions parlementaires au Parlement européen qui vont devoir se prononcer sur cette question clé. Et il est encore moyen de faire quelque chose. Je crois que nos amendements sont déjà dans la liasse. Et donc, en allant sur le site de la Quadrature du Net, chaque citoyen peut se renseigner sur les prochaines échéances au Parlement européen et peut tenter de peser sur cette décision-là. C'est aussi simple qu'envoyer un petit mail personnalisé, que passer un petit coup de fil à ses députés, aux différents membres des différentes commissions, en leur disant, voilà, c'est très important pour moi, c'est très important pour Internet, c'est très important pour les libertés, pour l'innovation, pour la libre concurrence. Donc, s'il vous plaît, empêcher ces faux services spécialisés, empêcher cette priorisation de certains sites par rapport aux autres. Et c'est en mettant comme ça collectivement la pression sur les membres du Parlement que l'on peut gagner. Et gagner, ça veut dire évidemment protéger de façon inconditionnelle cette neutralité du net dans la loi.
Voilà, des lois qui, comme on l'a vu, sont parfois truffées d'articles qui disent un coup quelque chose et le coup d'après son contraire, ce qui, devrait rendre caduque l'ensemble du texte, si on y relève des contradictions aussi fortes. Le site sur lequel on peut retrouver tous les outils et les informations pour agir, c'est savetheinternet.eu, S-A-V-E-T-H-E, internet.eu, qui est une initiative de la Quadrature.
C'est une initiative commune de nos amis autrichiens de Initiative für Netzfreiheit, de nos amis allemands de Digital Gesellschaft, de nos amis bruxellois de EDRI et de quelques autres. C'est un exemple assez intéressant d'une coordination un peu molle, un peu décentralisée d'acteurs européens. Ce qui montre bien que ce que l'on fait, c'est bon, et d'une, évidemment, de la politique au sens grec du terme, de citoyens qui s'intéressent à la vie de la cité, mais c'est aussi l'Europe politique que beaucoup de politiciens désespèrent de voir un jour apparaître. Mmh. Eh bien, c'est peut-être nous qui la faisons chaque jour en tant que citoyens, en se mobilisant au travers les frontières, au travers les différences culturelles, sur des enjeux aussi cruciaux que celui-ci.
Je pense que, Jérémy, on peut renvoyer nos auditeurs sur le site lqdn.net pour ceux qui adorent les acronymes, mais laquadrature.net, ça marche aussi, où on retrouve toutes les news, que ce soit pour parler de la neutralité du net, de vos droits culturels fondamentaux, dont on rappelait qu'ils étaient un petit peu menacés, ou des questions de surveillance, puisque on pouvait lire aussi le 17 décembre, pas de programme Prisme à la française, mais il me semble bien que ça a été finalement entériné. On vous souhaite une excellente année 2014, que toutes les luttes que vous puissiez mener soient couronnées de succès, total ou partiel. On sait que le succès total n'est qu'une vue de l'esprit dans ce genre de problématiques, puisqu'on l'avait vu, ACTA a été sorti, mais des arguments similaires reviennent, que ce soit au travers de TAFTA ou des autres acronymes super gentils qui nous fourniront.
Bien sûr, mais non, alors évidemment, c'est une somme de petites victoires, les unes à la suite des autres, ou de grosses victoires, qui nous aident à créer un contexte politique dans lequel il devient de plus en plus difficile d'attaquer frontalement nos libertés. Et même si effectivement ACTA est en train de revenir, les gens à la Commission européenne qui étaient en charge de ces négociations sont maintenant pétrifiés de trouille à l'idée que l'on revienne avec une mobilisation similaire. Ça prouve bien qu'il est urgent de continuer à agir et de ne jamais baisser la garde. Et nos auditeurs trouveront sur le site de la Quadrature du Net, notamment accès à une liste de discussions sur laquelle on discute de ces différents sujets, de ces différentes mobilisations, aussi l'accès à notre chat sur IRC, sur le canal Dièse La Quadrature, sur l'IRC Freenode, notre flux RSS pour lire nos news, l'accès au microblogging sur Twitter, @laquadrature, etc. Autant de canaux d'information et de participation que l'on met à disposition pour permettre à chacun de comprendre ces enjeux, mais surtout de participer dans le débat public, dans le débat démocratique, pour mieux défendre nos libertés chaque jour.
Jérémy Zimmermann, merci beaucoup pour ces quelques 20 minutes que tu nous as largement accordées. Et puis à très bientôt sur les ondes de Divergence FM.
Oui, à la prochaine. Salut.
Jérémy Zimmermann, joint avant-hier par téléphone. À présent, un petit peu de musique, toujours extrait de l'archive Dogmazic qui renaît de ses cendres. C'est l'artiste Dead Joshua qui nous chante A Silent View, un titre de octobre 2013 sous licence Art Libre.
Feel like
Dead Joshua, A Silent View, c'est une musique libre, sous licence art libre, que l'on peut retrouver sur dogmazic.net. Avant de se quitter, quelques rendez-vous pour les geeks et les autres et libristes de tout poil sur agendadulibre.org. On apprend que ce samedi à Marseille va se tenir une install party ainsi qu'un atelier informatique contre la surveillance sur Internet, une crypto party. Divers rendez-vous sur la semaine à venir avec une journée du domaine public. C'est à Toulouse le 26 ce dimanche. On en parlait avec Alexis Kaufmann de Framasoft la semaine dernière. Le 27 à Rennes, un atelier Tortales. Le 28 à Brignoles et Dijon. Réunion mensuelle de Gulliver et démarrage de GNU Linux en PXE avec PXE Linux. Rencontre logiciel libre à Toulouse le 29. À Paris, un atelier d'initiation à Git le 30. Et une présentation du logiciel libre et de la culture libre le 31 à Lyon. Tous les autres rendez-vous hexagonaux sur agendadulibre.org.be pour la Belgique, .ch pour la Suisse, .qc.ca pour nos amis québécois. Du côté de Montpellier et de sa région, montpel-libre.fr vous propose tous les rendez-vous. Ce 28 janvier de 9h à midi, les ateliers libres Notion PC, OpenOffice et LibreOffice à la médiathèque de Téran, place du Ballon, comme tous les mardis. Toujours de 10h à midi, le 28 janvier, section ateliers libres, section GNU Linux, découvrir et installer Linux, initiation au logiciel libre à la MJC André Malraux, avenue de la Moutte à Castelnau-le-Lez, comme tous les mardi. Atelier GIMP à la médiathèque de Téran ce jeudi 30 janvier de 17 à 18h. Et puis de 18 à 22h, ça sera la réunion d'organisation des RMLL 2014 comme les deuxièmes jeudis du mois. C'est au Coworking Montpellier, 19 rue de l'École de Droit. Ce mercredi 29 janvier de 18 à 20h, c'est à Lunel que les ateliers libres seront présents pour questions libres, informations sur les logiciels libres et GNU Linux. C'est 520 avenue des Abrivados. Le mercredi 29 janvier aussi, de 19h à 22h, rencontre du groupe OpenStreetMap de Montpellier. C'est toujours au Coworking rue de l'École de Droit, comme chaque dernier mercredi du mois. Vendredi 31 janvier de 18 à 20h, ce sera le logiciel GIMP et les logiciels LibreOffice qui seront présentés de 18 à 19h et de 19 à 20h à la Maison pour tous, Mélina Mercouri, 842 rue de la Vieille Poste à Montpellier. Et puis de 20h à 23h au même endroit, ce sera la rencontre mensuelle informelle autour de l'actualité du libre, toujours à la Maison pour tous, Mélina Mercouri. C'est ainsi que se referme cette 191e divergence numérique. La 192e, ce sera dans quelques temps. En attendant, la revue de presse de l'April vous accompagnera, comme d'habitude, le dimanche à 14h sur le 93.9 de Divergence FM, le 103.3, 102.0, 104.1 de Radio Escapade, et puis sur le 87.8 et le 98.6 de Radio Larzac. On vous souhaite en attendant de rester libre jusqu'à la prochaine fois. Salut. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks.